pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Xavier Alariot, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions d'Ile Jacob un nouveau livre, L'esprit des mots pour une nouvelle neuroscience du langage. Alors on précisera que le langage, là il s'agit du langage parlé.
Beaucoup de langage parlé, un petit peu de langage écrit et très très peu, par manque d'expertise de la langue des signes.
Très bien. Alors, vous êtes docteur en sciences cognitives, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à l'Université Aix-Marseille. Vos travaux portent sur la cognition et la neurophysiologie du langage. Alors, ces sciences ont pour objet de décrire, d'expliquer les processus de la connaissance. Est-ce que vous, on pourriez revenir sur ces mots, donc les sciences cognitives, la psychologie, linguistique, intelligence artificielle et neurosciences. Donc ce sont des éléments, des clés de vocabulaire qui nous permettront de naviguer plus facilement dans ce que nous allons dire.
Oui, exactement. On parle de cognition pour parler du traitement de l'information, en particulier par les humains. Qui sont capables de traiter l'information, et par beaucoup d'autres animaux qui sont capables de traiter l'information. On parle aussi de cognition dans un sens peut-être élargi, lorsqu'on a affaire à des ordinateurs qui traitent de l'information, et on parle de sciences cognitives pour réunir ou réunir ce qu'ont en commun différentes disciplines universitaires plus classiques, comme la biologie, la psychologie, la linguistique, toutes celles que vous avez citées, la philosophie, l'informatique, ce qu'elles ont en commun en se posant des questions et en trouvant des réponses et en se parlant, se répondant à propos de ces entités physiques qui traitent de l'information.
Alors, la linguistique, on va dire que c'est l'étude scientifique du langage humain.
Oui.
La psychologie, c'est la connaissance empirique et intuitive des sentiments, des idées, des comportements humains. C'est-à-dire que c'est l'observation, la connaissance de l'humain qui a des idées, qui ressent, qui a des sentiments. Donc c'est une connaissance par expérience et intuitive. Donc avec un sentiment d'immédiateté de la compréhension intuitive, c'est-à-dire immédiatement. Je suis sûre que c'est ça, c'est évident par l'observation.
Alors, oui et non. Vous avez souligné que la linguistique était une étude scientifique du langage.
Oui.
Et plutôt que de souligner l'aspect immédiat et intuitif de la psychologie, pour ma part, je voudrais souligner son caractère aussi scientifique.
Bien sûr.
Et son caractère qui cherche à objectiver un certain nombre d'aspects de la vie mentale. Ces aspects peuvent être accessibles, peuvent être intuitifs, je peux savoir que je suis en train de vous parler, ça j'en ai bien conscience, mais il y a un certain nombre d'autres choses dont je ne suis pas très conscient, par exemple le fait que je suis en train de conjuguer les verbes correctement pour m'exprimer de façon compréhensible. Et ça, la psychologie, elle est amenée à s'intéresser à ça aussi. Donc je parlerai plutôt d'une étude scientifique de la vie mentale, qu'elle soit émotionnelle ou pas, qu'elle soit intuitive et accessible ou pas.
Et les neurosciences, alors, ce sont des études scientifiques du système nerveux, des structures et de leur fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes, par exemple le cerveau, ainsi que tout l'arbre des ramifications nerveuses.
Oui, bien sûr. La neuroscience, c'est une branche de la biologie. Elle c'est une branche très vaste. Elle couvre différents niveaux de description que vous avez bien, très bien décrit. Et dès lors qu'on s'intéresse aux sciences cognitives, ça va être, certaines parties des neurosciences vont être plus importantes. Ce sont des neurosciences qui vont s'intéresser à des systèmes intégrés, pas forcément à des niveaux trop moléculaires, mais à des niveaux beaucoup plus, j'ai dit intégrés, je vais le redire, intégrés, qui permettent de mettre en relation différents types de structures qui génèrent des comportements, qui sont ceux que l'on va qualifier de cognition. Il y a une vieille blague, si vous me permettez, qui dit que lorsqu'on étudie un seul neurone, on fait de la biologie, et à partir de deux neurones, on fait de la psychologie. Donc, plus c'est intégré et plus c'est cognitif, en fait.
Alors, vous passez aussi par l'éthologie, qui est l'étude scientifique du comportement animal. Ce qui est passionnant, c'est que un animal, on ne peut pas lui enseigner le langage humain. Il a beau vivre dans une famille et être baigné dans un substrat de mots, il peut avoir quelques émotions, mais il n'arrive pas à apprendre le langage. Mais un enfant, tout seul, sans enseignement, sans cours, apprend à parler en 2 ans.
Oui, absolument. Alors l'éthologie est aussi une autre branche de la biologie, et là on voit bien les connexions qu'on va pouvoir commencer à imaginer entre quelqu'un qui fait de la neuroscience, quelqu'un qui fait de l'éthologie qui étudie le comportement humain, et donc de l'éthologie le comportement animal, et donc la vie mentale des animaux, quelqu'un qui fait de la psychologie et qui étudie la vie mentale des humains en particulier. Et pour revenir à ce que vous soulignez, c'est vrai que le langage est appris par les humains en peu de temps, en quelques années, 2-3 années, nous commençons à être très très forts, sans beaucoup d'apprentissage explicite. Les animaux ne le font pas, ça ne les empêche pas de communiquer, ça ne les empêche pas, et peut-être qu'on pourra entrer dans des complexités à un moment donné, mais ça ne les empêche pas d'avoir peut-être certains des éléments qui sont nécessaires au langage humain, mais peut-être pas tous, de sorte qu'ils ont des compétences partielles. Il ne faudrait pas juger négativement du fait que les animaux n'apprennent pas le langage. Ils communiquent d'autres façons et ils sont dans un monde et ils ont des besoins et des objectifs naturels qui leur sont propres, qui n'incluent pas le besoin de langage, manifestement.
Alors, que peut-on dire du langage? Qu'il est abstrait, c'est une entité immatérielle qui désigne ce qui est là, je dis la table est là, ce qui n'est pas là, la fontaine du parc n'est pas là, et ce qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas et que je crée par mon imaginaire. Donc le langage est abstrait, mais il est aussi évidemment concret, parce que parler, je fais bouger mes lèvres, ma langue a un point d'articulation sur le palais ou autre, je fais vibrer ou non mes cordes vocales selon que c'est sonore ou pas sonore, ou sourd. Donc le langage est concret, et preuve aussi majeure, c'est que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, une lésion dans le cerveau, que la matière de mon cerveau est abîmée à un certain endroit, je peux ne plus parler, pouvoir parler, ne plus comprendre le sens des mots. Donc le langage est abstrait et aussi concret.
Oui, c'est très juste. Vous touchez là un des aspects du langage qui, moi, m'intéresse, me fascine le plus. Le fait qu'on peut en donner une description parfaitement abstraite en termes de règles de grammaire, en termes de... Je parlais de conjugaison des verbes tout à l'heure. On peut aussi utiliser le langage pour parler des licornes qui sont dans le parc, etc. Donc des choses qui n'existent pas. Donc tout ça est très abstrait, c'est de l'information, ce sont des choses très conceptuelles. Et d'un autre côté, ça ne peut exister que grâce au substrat biologique, les organes d'articulation de la parole, l'oreille qui écoute, l'oreille interne et la communication jusqu'au cortex et au système nerveux plus généralement. C'est vrai que lorsque nous avons une lésion cérébrale, lorsqu'un patient a un certain type d'atteinte cérébrale, un accident vasculaire ou une maladie dégénérative, on va souvent observer que les désorganisations du langage sont relativement organisées. C'est-à-dire que le cerveau malade va conduire à certains symptômes qui sont spécifiques, qui sont structurés, qui ne sont pas complètement aléatoires. Et donc, on retrouve dans cette neuroscience ou cette neurologie du langage, on retrouve des pathologies qui affectent des propriétés que la grammaire a décrites par ailleurs. Donc on a une connexion entre la neurologie et la grammaire, je décris très rapidement, et donc on voit bien que cet objet ou cette, ce langage, cette immatérialité du langage, elle a une vie tout à fait physique, tout à fait biophysique et tout à fait matérielle. Et c'est cette connexion qui, moi, me paraît particulièrement intéressante à explorer et à essayer de comprendre.
Oui, donc ainsi le langage est un code abstrait, ancré dans des bases matérielles. Est-ce que ce sont ces deux leviers qui nous permettent de faire qu'une machine puisse parler, c'est-à-dire qu'avant, tout ce qu'on, les machines qui pouvaient parler étaient l'horloge parlante. Et puis là, nous avons sur Internet, nous pouvons trouver des vidéos dont, qui sont voisées par, par de l'informatique. On entend des voix avec justement une certaine prononciation, des ruptures de son. On voit que c'est assez particulier et c'est la machine qui parle. Donc, concret, abstrait, ces côtés concrets abstraits du langage, c'est là-dessus que l'on peut travailler pour faire que ces machines puissent parler.
Oui, en effet, les informaticiens ont fait des progrès énormes, chacun en aura entendu parler, j'en suis sûr, et ces progrès étaient possibles parce qu'une certaine façon de coder le langage a été trouvée avec des formules, des programmes informatiques et des formules mathématiques qui permet de manipuler les symboles du langage de sorte à retrouver des informations sur Internet, comme vous disiez, ou à générer du texte, ou à générer de la parole avec les derniers modèles larges, les grands modèles du langage dont on a tellement parlé depuis 2 ou 3 ans. Ces méthodes de codage de l'information linguistique par les machines sont peut-être ou ne sont peut-être pas les mêmes que nous utilisons, nous autres humains. C'est un champ de recherche actuel de savoir si ces performances parfois époustouflantes des modèles informatiques se retrouvent reflètent ce que font les humains au moment où ils parlent, ils et elles parlent. On peut le voir de deux façons, ce parallèle. Une première façon, c'est de se demander si le type d'information qu'utilise un modèle de langage est le même que le type d'information qu'utilise un humain. Est-ce que dans un modèle de langage, il y a des sujets, des verbes et des compléments? Est-ce qu'il y a des accords en genre? Est-ce que, d'une certaine manière, ces choses que nous pensons que les humains utilisent, est-ce que les modèles l'utilisent? Ça, c'est une façon de le voir un peu cognitive, un peu psychologique. Est-ce que la psychologie de l'informatique est la même que la psychologie de l'humain, si vous me suivez?
Oui, tout à fait, je vous
suis. Et l'autre façon de faire, c'est de se poser la question de savoir si le substrat matériel lui-même, si la machine fait des choses similaires à ce que fait le cerveau. Mmh. Et la question là est différente, c'est de savoir si lorsque nous observons des activités cérébrales grâce à l'imagerie de différentes sortes, on va retrouver les mêmes activations, entre guillemets, dans la structure d'un réseau de neurones artificiels. Est-ce que le réseau de neurones artificiels présente ou pas des similitudes avec le réseau de neurones naturels au moment où l'un et l'autre sont en train de faire du langage? Et les recherches actuelles montrent qu'il y a des similarités, suffisamment en tout cas pour qu'on creuse et qu'on essaie de comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il se passe la même chose, je dis qu'on trouve des parallèles qui sont tout à fait intrigants et qui sont sur le menu, qui sont sur les programmes de recherche en cours en ce moment.
Alors vous avez parlé des grands modèles de langage, quels sont ces modèles pour nous humains? Et il y a, on extrapole avec une parallèle pour les machines, quels seraient au pluriel les grands modèles de l'informatique, et en quoi vous avez vu qu'il y a des divergences et ou des convergences?
Alors, Les grands modèles de langage, je ne vais pas citer de noms commerciaux, mais c'est l'ensemble de ces outils que les sociétés informatiques majeures sont en train de mettre à notre disposition, soit de façon gratuite, soit de façon payante, pour générer du texte ou plus généralement générer des contenus, les modèles génératifs qui fabriquent du texte, qui répondent à des questions, qui résolvent des problèmes, qui résolvent des cas de justice, qui proposent des diagnostics, qui réalisent des compositions de l'agrégation d'économie de français ou de biologie, etc., etc., etc. Donc ces modèles, il y en a un certain nombre qui sont créés soit par des grandes entreprises privées, soit par quelques centres de recherche. Et la façon dont ces modèles sont construits au départ est très différente de la façon dont nous pensons qu'un enfant apprend le langage. Ces modèles sont créés par des systèmes d'association où l'on explique au modèle avec la bonne équation que tel mot va avec tel mot ou que tel mot, à la suite de telle séquence de mots, le petit chat, le mot suivant est sûrement « et », etc. Donc on apprend au modèle à prédire les mots qui participent à un contexte. Et on arrive à des performances tout à fait remarquables. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des allers-retours, et là on retrouve cette notion de sciences cognitives, des allers-retours plus ou moins explicites entre disciplines. Les informaticiens, à un moment, ont implémenté quelque chose qu'ils ont appelé l'attention. Ils ont dit, un modèle, jusqu'à présent, il prêtait beaucoup d'informations, on va lui donner les moyens de faire attention à certains mots plutôt qu'à d'autres. Et alors quand ils disent attention, ils capturent cette intuition que nous avons, nous humains, de savoir qu'il y a des mots qui sont plus importants dans une phrase que d'autres, et nous y ferons plus attention pour la comprendre. Mais ils implémentent cette attention dans le contexte très particulier d'un modèle informatique de langage. Donc c'est un peu l'attention des humains, mais ce n'est pas tout à fait l'attention. De la même façon, ces modèles vont avoir une mémoire à court terme, une mémoire qui est très efficace mais peu de temps, une mémoire à long terme, un peu comme nous avons nous aussi. Et donc, avec des termes qui se recoupent à travers les disciplines, on a des concepts similaires et des processus plus ou moins ressemblants, plus ou moins différents. Et c'est là où il faut essayer de déchiffrer à quel point l'attention, la mémoire à court terme de ces modèles et des humains fonctionneraient de la même façon ou pas.
Alors, attention et mémoire à court terme, des mots, nous l'avons aussi, ces mots qu'on a sur le bout de la langue, ces mots dont on se rappelle tout à fait la sémantique, exactement ce que ça veut dire, mais on ne trouve plus l'enveloppe phonique, donc le son, nous aussi, nous avons des bugs. Est-ce que cette grammaire que nous avons, nous, dans notre parole, le sujet, le verbe, l'adjectif, tous ces mots qui dépeignent au mieux de notre capacité verbale une idée que nous avons en tête, est-ce que cette grammaire humaine, il y a un semblant de parallèle chez en informatique, il y a des mots qui sont magnétisés par d'autres, il y a donc comme ça un système de mettre une sorte de grammaire entre les éléments d'un langage informatique.
Alors, la grammaire, dans une des versions les plus influentes, elle sort des idées du professeur Noam Chomsky, qui a décrit une grammaire universelle, qui a décrit le fonctionnement du langage humain comme étant le fruit donc d'une grammaire universelle, une capacité à manipuler des symboles que nous aurions en tant qu'humains, qui vient, au moment de l'apprentissage, s'adapter à la langue. Non plus la grammaire universelle étant le langage, et cette grammaire universelle vient s'adapter à la langue particulière, le français, l'anglais ou autre, que nous apprenons à la naissance et que nous utilisons. Cette grammaire, ce qu'elle dit, c'est que nous utilisons des structures. Et ces structures, je vais les simplifier, c'est ce que vous évoquiez, sujet, verbe, complément, subordonné, relative, toutes ces terminologies qu'on apprend au collège-lycée. Donc les idées principales à propos de l'utilisation du langage et très influentes au XXe siècle sont celles de Noam Chomsky, qui a mis en avant la notion de grammaire universelle, le fait que les humains utilisent une grammaire, donc une structure, pour manipuler le langage. en simplifiant, c'est ce que nous avons déjà évoqué, le sujet, le verbe, le complément, la subordonnée relative et cette capacité à structurer les phrases. Nous aurions donc à la naissance cette capacité à manipuler de façon structurée des symboles et nous ajusterions cette capacité en fonction de la langue que nous devons apprendre, que ce soit le français ou l'anglais. Et c'est de cette façon que, grâce à cette grammaire, nous utiliserions le langage. Cette façon de voir les choses est très différente de la façon dont les modèles informatiques de langage apprennent et utilisent les symboles du langage, puisqu'ils sont, en simplifiant beaucoup, ces modèles informatiques sont fondés sur la notion d'association et du fait que telle chose va avec telle autre. Les modèles vont apprendre qu'à la suite de ce début de phrase, le petit chat, la meilleure façon de la continuer, c'est de dire « et ». Ou en tout cas, une façon très probable de le continuer, c'est d'utiliser le verbe « être ». Le petit chat est, etc. Donc, la description du langage sur la base de propriétés associatives, c'est une façon de voir les choses, et la description du langage sous la forme de propriétés structurelles de grammaire, c'est une autre. La question qui se pose, c'est dès lors que les modèles du langage sont capables de générer des phrases, sont capables de générer du contenu, ont tout l'air d'être censés, si j'ose dire, est-ce que, sur la base de simples associations, est-ce que nous avons vraiment besoin d'une grammaire pour rendre compte de l'utilisation du langage par les humains? Et donc, un des enjeux de cette discussion actuelle, c'est de savoir si ces modèles, en quelque sorte, sont venus prouver que Chomsky s'était trompé. Ils sont venus prouver que sur la base d'un principe général d'association, on arrive à manipuler le langage de la même façon que les humains le font. Et ce type de questions, ben, ça donne lieu à des choses intéressantes qui sont des expériences, c'est-à-dire que les expériences que nous faisions naguère ou que nous faisons encore pour comprendre le traitement du langage par les humains sont maintenant réalisées sur les programmes informatiques pour savoir si les programmes font les mêmes erreurs que les humains si sur la base de ces erreurs ou de ces réponses correctes, on peut déduire des choses sur le traitement.
Alors ces erreurs, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Par exemple, lorsque l'on entend parler à quelqu'un qui ne connaît pas la langue, il utilise juste des mots comme « moi pouvoir manger du chocolat »,« moi pouvoir manger chocolat », »,« moi vouloir manger chocolat ». Donc il y a tous ces éléments de liaison entre les mots, la conjugaison au temps, au bon temps, à la personne de la conjugaison, tout, c'est un petit peu superflu, non ? Pour la compréhension.
C'est superflu pour la compréhension, en un sens, oui. J'espère que personne nous entend, parce que, en particulier pas les professeurs de français, parce que les phrases que vous avez proposées sont compréhensibles, mais tout à fait incorrectes.
Mais nous parlons de linguistique. Nous ne parlons pas de français.
Tout à fait. La personne qui parle une langue seconde, c'est un cas particulier, puisqu'elle n'a pas la connaissance suffisante, elle n'est pas présumée avoir la connaissance suffisante, soit qu'elle ne l'a pas apprise, soit qu'elle l'a apprise mais qu'elle n'est pas assez solide, soit que dans la vitesse à laquelle on utilise le langage, cette personne n'arrive pas à mobiliser ses connaissances. Et donc c'est vrai que... j'ai beaucoup parlé de structure et de grammaire, mais si on parle un peu du sens des mots et des phrases, de sémantique, on peut simplifier la forme des énoncés en gardant leur contenu. En particulier, les exemples que vous donniez, on a très bien compris que vous pouviez manger du chocolat, alors même que la phrase n'était pas strictement bien formée. C'est un phénomène qu'on voit dans certaines pathologies, qui conduisent, et notamment qui intéressent le lobe frontal gauche du cerveau, dans lesquels une partie de la compétence grammaticale se trouve abîmée, se trouve dysfonctionnelle. Et donc l'expression de ces patients on dit qu'elle est agrammaticale. On parle parfois de style télégraphique, en pensant au télégramme que l'on écrivait de façon simplifiée pour payer moins cher, puisqu'on payait au mot. Mm-hmm. Et donc, Alors c'est un peu plus laborieux, mais on arrive, ces patients arrivent à exprimer des sens, des phrases, et on arrive à les comprendre. Donc on peut distinguer effectivement la structure de la phrase, qui est très intéressante par un certain point de vue, et puis d'un autre côté, le sens de la phrase, qui au final est sûrement ce pourquoi nous utilisons le langage.
Voilà, l'essentiel, quoi, le but.
Oui. Oui, oui, tout à fait.
Alors, il y a aussi cette métaphore que j'ai lue dans votre livre et un peu ailleurs aussi, c'est que le langage, on peut le diviser en éléments tout petits, comme les phonèmes, comme d'abord les syllabes, les phonèmes, donc analyse dans le sens le plus petit possible, comme la chair du vivant, où il y a de la chair organisée, des cellules, des molécules. Donc il y a une sorte de parallèle établi entre le langage et la chair du vivant.
Oui, vous avez raison, on peut décrire le langage en le découpant dans des morceaux plus ou moins grands, plus ou moins petits, comme par exemple les sons de parole, les phonèmes, les syllabes, les mots, les syntagmes, les phrases, mm-hmm. les paragraphes, etc. Et dans le vivant, nous avons en particulier les molécules, nous avons les cellules, nous avons les organes. Et donc, un parallèle qui a été fait, qui moi me plaît beaucoup, effectivement, c'est le parallèle entre les cellules et le mot. La cellule, c'est un peu l'unité du vivant. Les organismes vivants ont des cellules qui ont une structure interne et qui participent vers l'extérieur, qui participent dans des structures plus larges qu'elles-mêmes, un peu comme les mots. Et donc, ça me paraissait intéressant de souligner ce point-là pour dire que le mot, c'est quelque chose de très intuitif, mais qui tout seul n'est rien, et qui, en fait, est aussi un petit monde en soi, puisqu'on peut le découper en morceaux qui sont intéressants.
Mmh. Ah, voilà, on peut le séquencer en éléments plus petits, comme on peut en fabriquer des phrases, des discours, des dialogues, des textes, des romans, voilà. Et de même pour la molécule qui, en s'agrégeant à d'autres molécules, forme la chair du vivant. Pas de l'humain, du vivant.
Oui, c'est ça, de la cellule. Moi, j'insisterais plutôt, puisque la molécule me paraît un peu petite pour la comparer au mot, mais tout à fait, oui. Ouais.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que j'aurais oublié d'évoquer, quelque chose d'important que vous auriez aimé nous développer comme conclusion, peut-être?
Peut-être que nous pouvons reparler un petit peu des animaux une seconde, parce que Nous avons dit que nous avons pas mal parlé de la similarité ou des différences entre les humains et les modèles informatiques, qui commencent à nous donner l'impression de maîtriser le langage à des niveaux remarquables et qui réussiraient des examens très difficiles, etc. De notre côté, on a l'impression que les animaux, on a beau leur parler, ils n'apprennent pas le langage. Parce que les recherches actuelles, et moi-même je ne travaille pas sur ce sujet, mais j'en décris quelques-unes dans le livre, ce que les recherches actuelles montrent, c'est que on peut penser au langage comme à une mosaïque de compétences cognitives. Nous pourrions revenir un petit peu sur les animaux que nous avons évoqués au tout début. On a beaucoup parlé de cette comparaison entre l'utilisation du langage par les humains et l'utilisation du langage par les modèles informatiques, qui semblent être de plus en plus performants, là où les animaux, de toute évidence, n'apprennent pas le langage humain, même ceux qui nous fréquentent de très près, les animaux domestiques. Mm-hmm. Les recherches actuelles, dont je parle un peu dans le livre, mais les recherches actuelles, elles soulignent que le langage n'est peut-être pas d'un bloc. Il ne se résume peut-être pas à une seule fonction, compétence cognitive, le propre de l'homme ou des choses comme ça, mais qu'il serait le fruit d'une mosaïque de compétences. Nous avons évoqué la capacité à manipuler des structures grammaticales, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. On pourrait aussi parler de la catégorisation, la capacité à savoir que plusieurs choses d'apparence légèrement différentes sont la même chose, comme le même mot prononcé dans différentes phrases. Mmh. Et donc on peut aller chercher dans des animaux, plus ou moins proches cousins, ou plus ou moins cousins éloignés, ce genre de compétences. Est-ce que telle espèce est capable de catégoriser? Est-ce que telle espèce est capable de identifier une structure? Est-ce que telle espèce est capable d'identifier une séquence d'association? Et l'on se rend compte que il y a un certain nombre d'espèces qui ont au moins une une partie de ses compétences. Donc une hypothèse intéressante qui découle de tout ça, c'est que le langage, ce n'est pas un exotisme, quelque chose de tout à fait spécial et particulier et différent que nous aurions, nous autres humains, mais c'est simplement la confluence, la co-occurrence, l'existence dans un même cerveau d'un certain nombre de compétences et peut-être de motivations à la survie qui ont conduit à cette sophistication de plus en plus élaborée au cours des âges, depuis la préhistoire, les hommes préhistoriques jusqu'à nous. Donc ça donne une vision du langage qui n'est pas celle d'un bloc qui serait apparu à un moment donné, qui serait la spécificité de notre espèce, c'est plutôt le résultat d'un petit mécano ou d'un complexe mécano cognitif.
C'est tout à fait passionnant. Et là, je vous remercie, Monsieur Xavier Alario, de nous avoir présenté ce livre très intéressant dont le titre est « L'esprit des mots pour une nouvelle neuroscience du langage » et ça paraît aux éditions Odile Jacob. Rappelons que vous avez dirigé l'ouvrage « Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau ». Merci beaucoup et à une autre fois.
Merci beaucoup.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.